Et avant toute chose, bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce magazine de nature et d'environnement, C'est haut de mon amour, avec Sandrine Thomas, Philippe Duclos à la technique et assisté de Jean-Baptiste Audibert, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Voilà, alors, pour la deuxième semaine consécutive, eh bien c'est un groupe à la réputation sulfureuse, un groupe hollandais ou peut-être bien suisse qui occupe la première place au top 50 du déchet business. Avec au programme de la dernière tournée en Afrique, on charge dans un navire grec immatriculé à Panama une cargaison de déchets toxiques à en faire pâlir les fabricants d'armes chimiques, on file à l'anglaise à la barbe des douaniers bataves et on met le cap sur la Côte d'Ivoire qui est déjà épuisée par 4 ans de crise et aussi le terreau de toutes les mafias du monde. On improvise une virée nocturne dans les décharges publiques d'Abidjan pour larguer les déchets empoisonnés en vrac au bord de la lagune. Alors bilan 3 semaines plus tard, déjà malheureusement cette mort, et c'est sans doute pas fini, et des milliers d'intoxications parmi les habitants de la région. À côté de ça, notre histoire de porte-avions Clémenceau fourré à l'amiante, avec ses ronds dans l'eau entre la France et l'Inde, ça fait vraiment petit joueur. Comme quoi le déchet business mondialisé, c'est un sport lucratif. Vous savez, c'est bien simple. La santé des populations locales, l'exportation des produits dangereux, la convention de Bâle, le principe pollueur-payeur, vous m'oubliez tout ça vite fait. Hein. Quelques sociétés écrans, 2-3 pavillons de complaisance, on arrose le tout de pot de vin et hop, le tour est joué. Il suffit de relire d'ailleurs un très bon bouquin de Bernard Clavel qui s'appelait « Un cargo pour l'enfer », tout était dedans déjà depuis une quinzaine d'années. Bref, 22 ans après la catastrophe de l'usine de pesticides de Bhopal en Inde, eh bien les affaires d'un autre type continuent. Et pendant ce temps-là, là je change de sujet, hein, je quitte les déchets, l'agriculture eh bien, dépend chaque jour un peu plus des fabricants de pesticides, c'est-à-dire on le sait, fongicides, herbicides et autres insecticides de synthèse, redoutablement efficaces pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors vous me direz, l'efficacité ça se paye, hein, d'après les contrôles effectués cet été par l'Institut français de l'environnement, pour les cours d'eau, bien les nappes souterraines, l'addition, on le sait, est très salée, elle est très nitratée même d'ailleurs. Comme les produits utilisés dont on étudie la toxicité à court terme ont été homologués, tout va bien. Donc on se demande pourquoi tout à coup des fonctionnaires zélés s'en prennent aux remèdes naturels utilisés dans les jardins. Notez que passer ses journées à traquer les grains de riz OGM chinois ou américains dans nos assiettes, c'est pas non plus tellement folichon. Alors que débarquer en fanfare chez les adeptes du purin d'ortie pour leur notifier que les produits bio ne sont pas sur la liste des produits phytopharmaceutiques homologués, quand même, c'est autre chose. Aujourd'hui, donc, le purin d'ortie, nous en parlons avec nos invités. C'est plein de vertus pour le jardin, vous le savez, le purin d'ortie. Et puis, ce qui est merveilleux avec les orties, c'est qu'avec, on soigne aussi bien les plantes, bien sûr, mais on soigne aussi le jardinier. Eh oui, la soupe d'ortie de nos grands-mères, eh ben, elle est très très bonne. Alors que la soupe à l'herbicide homologuée, hein, vous en connaissez beaucoup, vous, des vendeurs de produits phytosanitaires qui se font un bol de bouillon après les restes de leur préparation, hein? Donc, faut évidemment toujours pas pousser grand-mère dans les orties, mais on comprendra à la fin de cette émission que dans le purin d'ortie, c'est toujours naturellement autorisé. Petit dossier, donc, avec le ministère de l'Agriculture, avec Bernard Bertrand, le président des Amis de l'Ortie, et puis aussi avec Michel Lys, qui nous rejoindra sur cette antenne. Nouvelle séquence aussi, Ma vie dans mon siècle, avec Pierre Radane. Alors, Pierre Radane, c'est un expert en énergie, qui est déjà venu dans cette émission, qui est aussi le commissaire de l'exposition Énergie Mode d'Emploi, qui a lieu à Paris, au Bois de Boulogne. Et puis bien sûr, Jean-Marie Pell dans quelques instants, on va parler du cèdre du Liban. Alors, on ne parlera pas de la marée noire cette fois-ci qui est au Liban, on en parlera une autre fois avec d'autres éléments, donc c'est volontaire. Là, on restera sur le cèdre du Liban avec Jean-Marie Pell. J'espère que tout va bien, que la vie est pas mal, qu'elle est même plutôt belle. Et un petit coup de Jean-Louis Aubert, ça va nous faire du bien. Ouais.
Je chante pour ceux qui passent, et qui passent, et qui passent. Dans les grandes surfaces, un jour refont surface. Dans les supermarchés, s'arrêtent de supermarchés. Ma tête de gondole, dans les Fnac et les mégastores, roule avec celle de vos idoles jusqu'au pied des escalators. Roule avec celle de vos idoles, est-on plus grand vivant que mort? Je chante le produit de mon...
mes vols de nuit. Je chante à l'énergie, à qui veut bien l'entendre, moi qui me suis arrêté. Je chante pour ceux qui passent et qui passent et qui passent, comme nous passons tous d'un sas vers un sas, comme on est on trépasse d'un sas vers un sas, et on finit tous à la casse. Je chante pour ceux qui restent plantés là, sur le pas de la porte, j'y vais ou j'y vais pas, que le diable m'emporte, j'y vais et on verra. Je chante le produit de mes vols de nuit. Je chante à l'énergie, à qui veut bien l'entendre. Je chante à ton endroit. Je chante pour ceux qui passent et qui passent et qui passent, et qui de guerre lassent dans les grandes surfaces, un jour refont surface dans les supermarchés, s'arrêtent de supermarché. Je chante pour ceux qui passent celui-là.
Nous rangeons ce très joli CD dans sa pochette et nous sortons d'une autre pochette. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Denis.
Voilà, c'est une, pas la même pochette, mais c'est bien quand même. Et alors, on va grimper dans les arbres. Non, on va regarder un conifère de toute beauté qui s'appelle le cèdre.
Oui, on a parlé pendant cette malencontreuse guerre au Liban, du cèdre, qui est le symbole de ce pays, où il n'y a pratiquement plus de cèdre, oui. Mais où il y a 5000 ans, il y avait d'immenses forêts de cèdre. Le Liban était entièrement couvert de forêts de cèdre, qui, à mon avis, est un des plus beaux arbres qui soit. Il y a 4 espèces de cèdres sur la planète, et les cèdres du Liban sont sans doute les plus beaux. Ceux de l'Atlas au Maroc sont très beaux aussi. Mmh. Alors, pourquoi y a-t-il plus de cèdres au Liban aujourd'hui, sinon sur les avions et sur les drapeaux? Parce que on a récolté, coupé, déboisé depuis très 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 longtemps.
Alors, c'est une histoire qui remonte à 5000 ans quand même. Hein.
Elle remonte à 5000 ans. Les habitants du Liban, c'était les Phéniciens, et ils exportaient leurs cèdres par 2 villes dont on a parlé tous les jours dans les infos, Tyr et Sidon. Oui. Sidon qui s'appelle Saïda aujourd'hui. Et c'est à partir de ces ports que les cèdres étaient d'abord expédiés chez les pharaons d'Égypte qui payaient les Phéniciens avec de l'or et avec du papyrus pour faire du papier. Mmh. Et avec le bois de cèdre qui est imputrescible, on faisait les sarcophages dans lesquels on mettait les momies, et puis il y avait aussi la résine du cèdre qui permettait de faire la momification. Et c'est comme ça que les Égyptiens utilisaient le bois de cèdre. Ils utilisaient aussi le bois de cèdre pour faire des bateaux qui circulaient sur le Nil et puis dans leurs temples.
Alors, les Égyptiens, oui, mais aussi ce cèdre partait en Mésopotamie.
Oui, alors c'était l'autre grande civilisation, c'était la Syrie. Là, il fallait des bateaux sur le Tigre et sur l'Euphrate. Il y avait des palais. Ces palais ont été construits en bois de cèdre, ces bateaux également. Et le fameux roi Nabucodonosor, dont on parle abondamment dans la Bible, a laissé sur des rochers au Liban des inscriptions qu'on y voit encore pour louer ce pays qui lui avait donné ce bois magnifique. D'accord. Parce que en Mésopotamie, il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de forêt. Il y avait déjà à cette époque surtout des cultures de blé et des cultures d'orge. Et puis ensuite, il y a eu les Perses. Toutes les grandes civilisations, ils sont passées les unes après les autres. Le très beau palais de Persépolis au sud de l'Iran était entièrement revêtu de bois de cèdre, à l'époque de Darius, qui était un des grands rois de la Perse antique. Et puis il y avait les Israélites aussi, les Hébreux. Alors ici, on peut se référer à la Bible qui est tout à fait explicite et qui nous raconte dans le premier livre des rois comment Salomon a construit le temple de Jérusalem avec du bois de cèdre qu'il achetait à son cher collègue, le roi Hiram. Le roi Hiram, c'était le roi de Tyr. Et les cèdres descendaient en mer et ils flottaient sur la mer. On les faisait flotter. Oui. Et on les récupérait au niveau de Jérusalem. Mmh. Et là, on les traînait jusqu'à Jérusalem.
Et le roi... du flottage de bois, quoi, c'était ça. Comme on l'a fait dans le Morvan bien plus tard, d'ailleurs.
C'était du flottage. Ouais, c'est ça, ouais. Et le roi de Tyr était payé pour ses cèdres en huile d'olive.
Oui.
Mais ils ont consommé tellement de cèdres que le roi est devenu exigeant et qu'il a voulu être payé en ville. Et alors il s'est passé cette chose extraordinaire, vraiment extraordinaire, c'est qu'Israël a restitué des villes au roi de Tyr. C'est quand même extraordinaire parce qu'on est presque dans l'actualité. Oui. Voilà. Et alors à partir de là, ce temple a été donc construit, ça a été le point... centrale de toute la communauté hébreu.
Je crois qu'il a un peu brûlé quand même.
Alors c'est Nabuchodonosor qui l'a brûlé.
C'est ça.
Il l'a brûlé quand il a amené les Juifs en exil à Babylone pendant pratiquement un siècle. Et Jérusalem était par conséquent complètement délaissée et abandonnée. Et quand les Juifs sont revenus, parce que le roi de Perse Darius avait battu Nabuchodonosor et a laissé les Juifs revenir chez eux, ils ont construit un nouveau temple. Mmh. Et ils l'ont de nouveau construit avec du bois de cèdre. C'est le deuxième temple. Et ce deuxième temple, il a été détruit par les Romains quand Pompée s'est emparé de la Judée en 66 avant Jésus-Christ. Mmh. Et ce temple-là, qui est donc le troisième temple...
On reconstruit, on
fait... C'est le temple que Jésus a connu,
d'accord,
celui-là.
Ah, c'est ça.
Et... peu de temps, enfin quelques décennies après la mort de Jésus, les Juifs se sont révoltés et les Romains ont abattu le troisième temple.
Voilà.
Alors du coup, il n'y a plus de temple du tout. Maintenant, il n'y a plus que le soubassement du temple qui est le fameux mur des lamentations. Mais du coup, il n'y a plus de cèdre.
Oui,
voilà, c'est pas compliqué ce qui s'est passé. Et comme les Romains
on a tapé dans le stock, n'était pas infini des Phéniciens.
Qui n'a pas pu se reconstituer. Et les Romains en ont utilisé beaucoup encore après la période donc du Christ pour construire des navires. Et là, il s'est passé un événement historique pour l'écologie, c'est que l'empereur Hadrien, qui a été mis en scène dans le très très beau livre des Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar, en 125, a pris un édit impérial pour interdire que l'on coupe des cèdres au Liban.
Oui.
Et c'est, semble-t-il, le premier texte qui vise en Occident à la protection de la nature. C'est très beau,
ouais.
Ça. Et les quelques cèdres qui restaient ont été protégés dans le domaine impérial qui a été, au fond, l'ancêtre des parcs, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, de conservation de la nature.
Et
ça
c'est...
se passe en 125, ça.
Oui.
Et puis après, il y a eu l'Empire ottoman, où on a continué à couper les cèdres qui restaient. Alors aujourd'hui, c'est navrant, il n'y a plus de cèdres au Liban. Moi, j'ai vu les cèdres de Béchare. Si vous allez au Liban, quand il n'y a pas la guerre, parce que malheureusement, ce pays est continuellement menacé par des conflits, vous allez à Béchare et vous allez à ce qu'on appelle les cèdres. Tous les voyages au Liban prévoient qu'on fasse une expédition touristique aux cèdres. Alors vous voyez ces cèdres magnifiques qu'on a d'ailleurs enveloppés dans un mur pour que les gens n'aillent pas trop près parce que sinon ils piétinent et les graines
c'est
ne peuvent plus germer.
Aussi.
Voilà.
Ouais.
Alors il nous reste ça, il nous reste des cèdres sur les drapeaux.
C'est-à-dire qu'en vous écoutant, l'histoire du cèdre, c'est de l'anti-développement soutenable.
Oui, c'est ce qu'on a fait.
Ouais.
C'est ce qu'on a fait pendant très longtemps et... on pourrait reproduire une histoire tout à fait analogue pour les grandes forêts de l'ouest de la Chine, qui ont toutes disparu de la même manière. On pourrait faire la même histoire pour la Grèce, qui s'est complètement déboisée entre moins 800 et moins 400, de sorte que Platon gémissait en pensant aux magnifiques forêts qu'avait connues Homère, alors que la Grèce, était complètement déboisée. Même scénario en Espagne, où on a déboisé l'Espagne en l'espace de 500 ans à peu près. On disait qu'un petit écureuil pouvait aller en sautant d'un arbre à l'autre de Gibraltar jusqu'aux Pyrénées. Eh ben, écoutez, le pauvre écureuil, maintenant, quand il serait à Saragosse, il serait bien embêté. Hein.
Merci beaucoup Jean-Marie Pelt. On se retrouve
la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir Denis. Au revoir à tous.
Je connais encore des petits coins qui ne sont pas défigurés. Mais pour dire où ils se trouvent, même sous la torture, je ne parlerai pas.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Ben voilà. Et puis ce qui n'était pas désagréable non plus, c'était Darkle, donc on vient d'entendre, qui est un des membres de R, c'est un des groupes de pop français, et qui interprétait At the End of the Sky, autrement dit, au bout du ciel. Et nous, on ne va pas du tout aller au bout du ciel, on va plutôt aller au bout du purin d'ortie, c'est tout à fait autre chose. Du rififi dans les orties, c'est le dossier aujourd'hui de CO2, mon amour. Alors c'est un joli feuilleton là qui a ressurgi il y a une dizaine de jours, je m'explique. Il y a eu beaucoup d'agitation sur la toile, sur le net, alors là ça y allait. On veut tuer le savoir et les traditions populaires, les recettes de grand-mère doivent être brûlées, l'Inquisition est de retour, on ne peut plus utiliser le purin d'ortie qui est excellent pourtant pour se débarrasser des pucerons, on ne peut plus transmettre nos savoirs ancestraux. Bon, alors je me suis dit, on va poser les valises. C'est vrai qu'il a une grosse star ce purin d'ortie, parce qu'il est utilisé depuis par des générations de jardiniers, et donc avec d'excellents résultats, mais il ne correspond pas aux critères de l'agrochimie libérale homologuée. Et donc, il peut être très, très dangereux pour les utilisateurs. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de fantasmes. Et aussi, il faut le dire, pas mal de bêtises qui ont circulé sur la toile. Je me suis dit, on va aller aux sources de la loi d'orientation agricole qui tente, ça faut quand même le préciser, timidement, mais réellement de développer l'agriculture biologique. Je dis bien timidement. Et on va regarder l'article 70 qui a fait donc l'effet d'un chiffon rouge. Et là, je vous lit, hein, ça va pas être long, mais quand même bien comprendre de quoi il s'agit. Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final. Alors, utilisateur final, c'est vous, c'est moi, c'est le jardinier, c'est l'agriculteur, hein. Donc, sont interdites des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre. Et puis, un autre article, L253.7, toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article en question que je vous ai cité ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Autrement dit, on se dit, bah, ça veut dire qu'on peut parler que de produits qui sont commercialisés, bien sûr. Donc, j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai appelé hier au ministère Joël Mathurin. Donc, Joël Mathurin, bonjour.
Bonjour Denis Chessou.
Vous appartenez à la sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux au ministère de l'Agriculture et on avait besoin évidemment un peu de vos lumières et d'éclaircissements puisque ça ne vous a pas échappé. Il y a quand même une belle polémique, on va dire, autour du purin d'ortie, mais de manière un petit peu plus large donc sur ce texte de loi. Alors, quelques questions toutes simples, Monsieur Mathurin, afin de faire le point. Je suis un particulier. Je fabrique, mettons, mon purin d'ortie. Je donne aussi la recette à des amis. Alors, est-ce que là, je suis dans les clous? Est-ce que je suis répréhensible ou non?
Vous êtes un particulier.
Oui.
Vous faites du purin d'ortie.
Je fais ça chez moi.
Au fond de votre jardin. Vous en avez tout à fait le droit.
Maintenant, j'achète du purin d'ortie. Et je l'utilise.
Alors là, ça se complique. Parce que pour mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique, en ce sens, le purin d'ortie peut être considéré comme un produit phytopharmaceutique, il faut passer sous les fourches codines d'une instance d'évaluation du risque.
Oui.
Et donc tout cela est cadré au niveau communautaire. Donc on n'a pas le droit de mettre sur le marché du purin d'ortie, en l'occurrence, sans passer par une instance d'évaluation du risque.
Alors, je suis maintenant agriculteur biologique. J'utilise le purin d'ortie qui est fabriqué par moi-même dans mes cultures. Je dis bien fabriqué par moi-même dans les cultures. Est-ce que c'est possible ?
Tout à fait.
D'accord. Je parle à l'antenne des bienfaits du purin d'ortie, bon, sans citer de marque commerciale, ou bien je suis dans une conférence publique, je mentionne donc les bienfaits du purin d'ortie qui est très bon, qui a des bons résultats pour lutter contre les pucerons. Est-ce que je peux le faire ?
Tout à fait.
La recommandation donc de produits phytosanitaires qui ne sont pas homologués sur une antenne, dans un journal, donc n'est pas répréhensible. On est bien d'accord?
Dans un cadre général, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je vous recommande le produit purin d'ortie qui aurait la marque
d'accord, non, mais c'est ça.
Soumis, qui n'est pas soumis à homologation.
En revanche, je dis par exemple que la fougère est très bonne pour éloigner les chenilles des choux, je peux le faire. Bon, mais si j'écris cela dans un bouquin qui sera vendu?
Vous pouvez l'écrire dans un bouquin, tout à fait, puisque vous êtes dans un cadre général, il n'y a pas de souci.
Bon.
Il n'y a pas de publicité pour un produit particulier.
Si je détiens des pesticides qui sont donc issus de l'industrie chimique, qui sont homologués, avec une tête de mort sur le flacon qui m'avertit de son danger, bon, là, il n'y a pas de problème, ça vous semble...
Vous êtes un particulier?
Oui, je suis particulier, oui.
Non, vous n'avez pas le droit, parce qu'un particulier ne peut détenir que des produits phytopharmaceutiques qui ont la mention emploi autorisé dans les jardins.
D'accord. Mais lorsqu'il y a une tête de mort dessus, non, c'est
bon,
pas...
En général, ça n'a pas emploi autorisé dans les jardins.
Bon. Monsieur Mathurin, les agriculteurs biologiques, bon, qui utilisent majoritairement, on le sait, des produits naturels qui ne sont pas homologués, est-ce qu'ils sont privés de leur outil de travail?
Attends, écoutez, les choses sont tout à fait simples. De quoi s'agit-il? Il s'agit évidemment de ne pas embêter les gens, mais de maîtriser un risque, notamment dans le cadre de cessions. Vous êtes dans une logique de mise en marché d'un produit phytopharmaceutique, qu'il soit substances d'origine chimique ou de substances d'origine naturelle, il peut être dangereux. Et donc, ce danger doit être maîtrisé.
Ah, d'accord.
Et donc, on doit faire une évaluation des risques. Et donc, vous ne pouvez pas mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique d'origine chimique ou naturelle s'il n'a pas une homologation. Voilà de quoi il s'agit.
Alors, on vous entend bien, M. Mathurin, mais ce qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, c'est éventuellement le risque. Alors, autant, évidemment, qu'il y a beaucoup de charlatans, qu'il y a beaucoup de choses là-dessus, et je crois qu'effectivement, votre boulot, c'est aussi de faire attention donc, à la fois à ces problèmes de santé, de ne pas mettre n'importe quoi sur le marché. On l'entend parfaitement. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment des produits, je ne sais pas, mais est-ce que du purin d'ortie vendu dans le commerce, est-ce que ça vous paraît quand même extrêmement dangereux quoi?
Le purin d'ortie vendu dans le commerce il doit passer sous les fourches caudines d'une instance d'évaluation du risque, parce que il y a la responsabilité déjà du vendeur, mais aussi de l'État, puisqu'on est sous le coup d'un encadrement communautaire qui est engagé. Donc voilà, et ça peut être dangereux.
Alors, on sait aussi que pour le coût d'une autorisation de mise sur le marché, c'est pas évident parce que ça va quand même de 85 000 à 165 000 euros et on se doute bien qu'il y a beaucoup de, quand même, de petits producteurs qui vont pas pouvoir forcément passer avec ça, quoi.
Alors, sur ce sujet, il y a effectivement, à mon avis, des marges de progrès. Donc, nous avons déjà depuis le début, notamment dans le cadre des réflexions sur la loi d'orientation agricole, qui porte d'ailleurs sur un certain nombre de mesures favorisant l'agriculture biologique. Donc, le message agriculture est plutôt dans une logique, dans le cadre de la loi d'orientation agricole, dans une logique de favoriser l'agriculture biologique. Donc nous avons effectivement établi un certain nombre de contacts avec des professionnels et l'idée c'est qu'effectivement on puisse être en mesure de réunir une task force pour permettre d'avancer sur des évaluations qui sont assez spécifiques. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein. Concrètement, il y a des dossiers, notamment sur le purin d'ortie, pas encore, mais ça va venir peut-être, justement avec le débat qui a été lancé depuis quelques jours. Avec l'huile de nène, nous avons lancé avec un certain nombre de firmes, avec la rotenone aussi, qui est un produit naturel, mais qui peut poser quelques dangers. Nous avons lancé une évaluation spécifique avec un accompagnement public, hein, clairement, avec les opérateurs. Donc tout cela est possible et alors on peut faire mieux, mais en tout état de cause, on ne peut pas ne pas passer par la case d'évaluation du risque. Voilà.
Sinon, Monsieur Mathurin, qui a initié ce texte de loi?
Alors l'objectif général de cet article est l'amélioration de la sécurité sanitaire de la qualité des produits. Donc notamment, il s'agissait de transférer à l'AFSA l'évaluation des produits phytopharmaceutiques et de se mettre en conformité avec le droit communautaire. Donc, vous savez, dans le cadre communautaire, l'utilisation des pesticides est encadrée. Donc on avait un certain nombre d'éléments, dont la question notamment relative aux recommandations, à la publicité, qui devait être calée par rapport au cadre communautaire.
Mais est-ce que le défaut, je dirais, de ces produits, c'est-à-dire, on va faire simple, à la fois recettes de grand-mère, prouvées ou non, peu importe, on va dire ça, en tout cas qui ne sont pas homologuées, on l'a bien compris, est-ce que ce n'est pas de ne pas correspondre aux critères de l'industrie agrochimique derrière?
Non mais, attendez, encore une fois, je suis tout à fait clair là-dessus. Je pense que pendant quelques années, notamment au début de l'évaluation des risques dans les années 80-90, il y a certainement eu une sous-estimation du travail méthodologique à mettre en œuvre pour une évaluation spécifique des produits naturels.
D'accord.
Parce qu'il est clair que des produits naturels ont les spécificités en matière d'évaluation, ils sont moins stables, la composition est plus complexe, donc il faut mettre en œuvre des lignes directrices spécifiques pour évaluer ces produits. Attendez, moi, pour être clair, effectivement, si je laisse faire mes experts, il n'y a pas un produit bio qui est évalué, parce que c'est plus compliqué pour eux, ça. Ouais. Non, vous avez raison, il faut une volonté politique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que,
pour un jeune sorti d'école, c'est beaucoup plus simple d'évaluer un produit chimique. Hein.
Oui.
Vous prenez un jeune junior, un expert junior, il n'arrivera pas à vous évaluer la pirette.
Oui.
Ça, c'est clair.
Donc il faut arriver à trouver quand même autour de la table un moyen effectivement pour que l'on puisse évaluer aussi ces produits naturels sans avoir la même grille d'interprétation, on va dire, que pour l'industrie chimique.
Tout à fait, ça on l'a fait. D'accord. Maintenant ce qui manque c'est un peu d'argent.
D'accord. Bah, écoutez, merci à vous Monsieur Mathurin, donc c'était important de faire ce point avec vous et puis dans quelques instants on écoutera aussi Bernard Bertrand. Merci à vous Monsieur Mathurin.
Je vous en prie.
tout cas, merci donc à Joël Mathurin d'être intervenu. Donc, je rappelle, sous-directeur de la qualité de la protection des végétaux au ministère de l'Agriculture. Et cette loi donc est sortie en janvier. Et donc, sur cette antenne, Alain Baraton d'abord, puis Jean-Pierre Coff et aussi moi-même, on s'était un peu émus. Et puis après, c'est vrai qu'on était passé à autre chose. Et voilà pas qu'un homme qui s'appelle Éric Petiot, qui est paysagiste, qui est spécialisé dans le traitement bio des végétaux, voit débarquer chez lui, c'était il y a une dizaine de jours, la répression des fraudes et le service régional de la protection des végétaux du département de l'Ain. Bon, il s'appelle Petiot, vous allez me dire, ça aide pas forcément, mais ça n'a rien à voir avec le bon docteur qui semblait lui un peu plus dangereux. Et donc, chez Éric Petiot, on saisit des documents de stage qu'il organise. Il n'y a pas eu de saisie de produits. Bon, et puis alors après, sur le net, c'est évidemment tollé général. Alors, aussi hier, donc j'ai appelé Bernard Bertrand, qui est le président de l'association des Amis de l'Ortie, qui a donc écrit cet ouvrage sur l'ortie. Bernard Bertrand, bonjour.
Bonjour, Denis.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Purin d'ortie et compagnie. Alors, c'est pas forcément un immense best-seller aux éditions du Terran, mais malgré tout, vous en avez quand même beaucoup vendu. Donc, à la gloire de l'ortie. Et on aimerait avoir, bien sûr, votre sentiment donc par rapport à cette loi qui a été appliquée au 1er juillet 2006.
Mais nous, on est déjà très surpris d'avoir écrit un livre hautement subversif, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à tout sauf à ça, puisque c'est un livre qui donne des recettes traditionnelles de jardinage écologique et naturel.
Et ça, on ne peut plus le faire parce que ce livre est vendu.
Voilà. Alors, bon, ben ça, on n'en sait rien. À ce jour, effectivement, le livre n'a pas été saisi, n'a pas fait l'objet d'interdiction. On a quand même eu des menaces très précises de gens anonymes sur des salons qui nous a dit qu'on n'aurait pas le droit de vendre ce livre. Bon, voilà, ça reste le fait de personnes isolées, j'espère, je pense. J'espère que ça n'ira pas plus loin.
Bernard Bertrand, quelles sont les conséquences de cette loi pour l'agriculture biologique ?
Alors, les conséquences sont extrêmement graves. Alors, il faut savoir qu'il y a une ambiguïté énorme au niveau de l'administration dès qu'on parle d'agriculture biologique. Par éthique, un agriculteur biologique refuse d'utiliser des produits de synthèse. Et ça, visiblement, l'administration ne veut pas l'entendre. Un agriculteur biologique ou un jardinier biologique, qu'il soit amateur ou professionnel, veut travailler avec des matériaux vivants.
Et donc, c'est différent des molécules qui sont tout à fait répertoriées, identifiées dans l'agriculture chimique ?
Eh bien sûr, ça n'a rien à voir, parce que des molécules, c'est facile de savoir qui elles sont, c'est facile effectivement d'imaginer des homologations, même si elles sont très lourdes, c'est facile de voir l'impact qu'elles ont. À partir du moment où on travaille avec des matériaux vivants, et l'exemple, effectivement, notre fer de lance, c'est effectivement le purin d'ortie, l'extrait d'ortie, mais c'est un matériel vivant qui ne va pas avoir deux fois la même composition, qui va avoir des constances. Alors, nous, sur le fait d'homologuer ces produits-là, on est tout à fait d'accord. Sur le fait de mettre des garde-fous, de faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas faire de la poudre de perlimpinpin et tromper et le consommateur et l'utilisateur.
Bien sûr.
On a déjà travaillé dans une commission avec le ministère de l'Environnement, avec l'UPJ, avec ces gens-là. On a déjà travaillé. Or, il se trouve que la loi, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle s'est servie de toutes les conclusions de ce groupe de travail pour verrouiller toutes nos demandes. Par exemple, on demandait que les phytostimulants soient reconnus en tant que tels. C'est-à-dire que ce sont des produits qui vont dynamiser la croissance des plantes, favoriser les échanges entre le sol et la plante. Ils ne vont pas avoir une action directe biocide, c'est-à-dire ils ne vont pas tuer directement des micro-organismes qui seraient toxiques pour la plante. Ils vont favoriser ses défenses immunitaires. Mais jusqu'à présent, c'était le flou juridique un petit peu sur ces produits-là.
Tandis que là, ça ne l'est plus, parce qu'effectivement,
là,
dans cette loi, donc,
voilà.
On définit bien les produits phytopharmaceutiques et on dit aussi, au-delà des biocides,
on inclut
le fait qu'ils peuvent exercer une action sur les processus vitaux des végétaux dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives.
Exactement. C'est très bien que les produits commerciaux vendus pour l'agriculture biologique, la plupart d'entre eux ne sont pas homologués aujourd'hui et ne sont pas homologables parce qu'on ne parle pas des mêmes produits, on ne parle pas de la même chose. C'est véritablement une catégorie différente de produits.
Bernard Bertrand, est-ce qu'il y a un point intéressant dans cette nouvelle loi ?
Si on reprend l'exemple d'Éric avec la flavescence dorée, effectivement, l'article 253.2, il nous dit que lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée, attention, n'excédant pas 120 jours,
oui.
danger, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique qui ne satisferait pas aux homologations. Donc effectivement, en cas d'extrême urgence, on peut avoir recours aux produits naturels, mais attention, pas trop longtemps,
non.
Uniquement 120 jours.
C'est ça, faut pas que ça traîne.
Ah, mais sait-on jamais.
Merci beaucoup Bernard Bertrand, et puis donc à très bientôt.
Merci Denis, à bientôt.
Les suites du feuilleton, donc, un petit peu plus tard. Et là, eh bien, un homme a écouté donc ces deux interventions. Il est en direct avec nous. C'est Michel Lys. Bonjour, cher Michel.
Bonjour, monsieur Chessou.
Comment allez-vous?
Je vais très bien. Bon. Je me porte bien sous la pluie charentaise.
Eh bien, c'est ça, parce que vous êtes chez vous en Saint-Onge.
Et puis, alors... le vent d'ouest, monsieur, c'est ça.
Mais c'est ça. Et mais nos amis de La Rochelle et donc de votre région peuvent vous entendre, je tiens à le dire, sur France Bleu La Rochelle, donc tous les jours, 6h10 et 8h10. Et je sais que là, évidemment, vous prodiguez de très nombreux conseils. Alors peut-être d'abord une réaction générale, parce que vous faites vous-même partie, je crois, quand même, de cette merveilleuse confrérie des Amis de l'Ortie.
Eh bien, bien sûr, j'en fus le grand maître de la confrérie de l'Ortie. Et disons que, véritablement, l'ortie n'est pas une mauvaise plante. Vous savez, on dit toujours, c'est des plantes, ça peut pas faire de mal.
Oui.
Ce n'est pas tout à fait vrai quand même, parce que nous sommes entourés de fioles de poison violents.
Alors racontez-nous.
Prenons l'exemple. Votre haie de laurier que vous admirez si bien,
oui.
Eh bien toutes les feuilles sont pleines de cyanure. Le Diefenbachia que vous avez offert à votre belle-mère,
oui.
Avec ses belles feuilles panachées, etc. Là aussi c'est une plante pleine de poison. Beaucoup de plantes ont des alcaloïdes, des poisons, et prenez par exemple la digitale, n'en abusez pas, comme dirait l'autre.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des plantes beaucoup plus évidemment dangereuses que les orties, évidemment.
L'ortie.
Bon, alors l'ortie, parce qu'on en parle de différentes manières, on parle des pucerons, on parle de fertilisants, faisons un petit peu le point. Quels sont les bienfaits de l'ortie?
L'ortie, avant tout, c'est un dynamiseur de croissance.
Voilà.
C'est un dynamiseur de croissance, c'est très difficile à déterminer pourquoi, mais quoi qu'il en soit, depuis des siècles, on se sert de l'ortie pour dynamiser une culture un peu chétive. Et moi, je connais un agriculteur qui donne du fourrage à ses vaches avec de l'ortie séchée. Et ses vaches donnent plus de lait, 20% de lait en plus.
Oui, donc c'est quand même pas mal, ça.
C'est pas mal.
Oui, oui.
Mais bien sûr, c'est un éliminateur de pucerons.
Oui.
C'est un, ne disons pas, un tueur de pucerons, pas tout à fait. Mais il empêche les pucerons de venir sur la plante. Vous savez, lorsqu'une plante se porte bien, ou lorsque nous nous portons bien, on attrape plus difficilement un rhume.
Oui.
Eh bien, c'est la même chose pour les plantes.
Hein. Oui, mais ça, je crois, effectivement, c'est tout le principe que Bernard Bertrand nous a expliqué. Ce que l'on entend bien, parce que bon, là c'est vrai qu'on est quand même extrêmement rassuré, c'est-à-dire que l'on peut continuer sans citer de marque sur nos différentes antennes, dans les différents journaux. Et on peut fabriquer son purin d'ortie. En revanche, ce que l'on entend quand même aussi à travers cette loi, c'est qu'un particulier ne peut pas forcément, ne pourra acheter que des produits homologués et donc chimiques. Alors derrière cela, on ose, si on ose imaginer qu'il pourrait y avoir, je sais pas, une suggestion des fabricants de pesticides, qu'il pourrait y avoir une infime pression.
Alors, il est possible que il n'y a pas que des naïfs dans ces professions.
Voilà, hein. C'est ça.
Il n'y a pas que des naïfs. Mais le plus difficile, je crois, après avoir écouté votre dossier, eh bien, c'est que on ne peut pas, avec les produits vivants, arriver à une standardisation comme avec les produits chimiques.
On est bien d'accord, bien sûr.
Voilà.
Oui,
d'un marchand à l'autre, d'un fabricant à l'autre, le contenu, l'analyse peut varier.
Oui.
C'est pour ça que c'est la grande difficulté de l'ortie, si vous voulez.
Là, on parle des orties, mais si on parle de l'eau des pommes de terre, plutôt que de l'acheter bêtement, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau des pommes de terre?
On peut arroser une allée de gravier, ça empêche les jeunes herbes, les jeunes mauvaises herbes. Je ne parle pas de mauvaises herbes, je dis simplement les adventices, c'est un mot savant, parce qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes dont on ne connaît pas encore l'usage.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait ça.
Oui, mais
il avait parfaitement raison. Il était déjà écolo avant la lettre, lui.
Alors sinon, parmi ces différentes recettes aussi, quelles sont celles qui marchent bien?
Alors, parmi les recettes, bon, le purin d'ortie, certes,
oui.
Mais faites-le au fond de votre jardin, parce qu'autrement, votre voisin en aura plein le nez.
Ça sent pas bon.
Et c'est une très mauvaise odeur au moment de la fermentation.
Et avec la prêle, la consoude aussi.
Alors la prêle, la consoude,
oui.
La consoude qui veut dire tout simplement « je consolide » en grec.
Oui.
Et donc la consoude est très bonne en infusion. On dit même que c'est le thé de Sibérie. L'homme peut en prendre beaucoup. Ma grand-mère nous faisait des soupes d'ortie. Je ne peux vous dire que ça. Avec des pommes de terre, un petit peu de beurre, c'était délicieux. Et la soupe d'ortie, on en a mangé pendant des décennies.
Et vous vous portez comme un charme, je le sais.
Je me porte comme un charme,
voilà.
Si vous voulez.
Autre
Mais
arbre.
Quoi qu'il en soit... Je pense que l'ortie, c'est pas une plante mauvaise en elle-même, mais c'est tout simplement la difficulté de la classer, de la ranger sur une étagère précise.
Bien sûr.
Et alors, tenez, la meilleure preuve, je vais vous en donner une, c'est une tradition. En Saint-Onge, vous savez ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait?
Quand quelqu'un est malade,
oui.
On va glisser un fagot d'ortie sous le lit du malade, et il va guérir beaucoup plus vite.
Ah! Bon,
alors, vous voyez que l'ortie guérit quand
bon,
même.
Et c'est... Mais c'est pas homologué, votre truc. Mais
non, c'est pas homologué.
D'accord. Mais enfin, on peut essayer. A priori, on mourra pas.
Quand même.
Bon. Et on se posait une question avec Alain Baraton. On se disait, est-ce qu'on a le droit de recommander d'arroser des plantes avec de l'eau en sachant que l'eau n'a jamais été homologuée, Michel?
Ah, ben ça, c'est évident. D'autant plus que l'eau de nos robinets, parfois, est chargée de beaucoup de choses qu'on ne préfère ne pas citer.
Tout à fait, exactement. Et là, la boucle est presque bouclée. Mais écoutez, un grand merci, cher Michel.
Hein. Eh bien, je continuerai à utiliser l'ortie dans mon jardin, et en particulier pour la plantation des jeunes plants de tomates au printemps prochain, parce que mettre une poignée de feuilles d'ortie fraîches au fond du trou de plantation, vous aurez beaucoup plus de tomates, plus belles, plus sucrées, plus juteuse, véritablement. Venez manger les tomates chez moi.
Mais c'est ce que je vais faire. Écoutez, à l'automne, je vais passer chez vous. Et
parfait.
Puis on va prendre le magnétophone et on va se promener dans votre jardin. Ça va être bien. À très bientôt, cher Michel.
À bientôt.
Au revoir. Et dans quelques instants, on va rejoindre Pierre Radan avec une nouvelle séquence. Ma vie dans mon siècle, jusqu'après Rokia Traoré. Merci à Karl Vasseur qui a choisi ce disque. Rokia Traoré, c'était Sarah.
Ma vie dans mon siècle.
Bonjour Pierre Radan.
Bonjour Denis.
On va parler avec vous dans Ma vie dans mon siècle. On va se mettre à la place d'un jeune qui a 20 ans aujourd'hui et qui se pose des questions sur ce 21e siècle parce qu'on lui a présenté ça de manière peut-être un petit peu négative alors que c'est un grand défi et qu'il y a des choses à faire. On rentre dans la maison. Alors Pierre, on connaît, c'est vrai, aujourd'hui nos différents ustensiles, les différents ingrédients d'une maison, mais on va se projeter un petit peu plus loin. À quoi va ressembler notre intérieur, nos appareils, mettons, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans et un peu plus tard?
La première remarque qu'on peut faire, c'est quand même une énorme stabilité. Vous voyez bien qu'on habite aujourd'hui des maisons qui, pour certaines, ont 400 ans, 500 ans, et qu'elles, finalement, elles s'adaptent à des changements de comportement. Et les ingrédients de la maison restent en fait les mêmes.
Donc les invariants vont pas bouger.
C'est un besoin de chauffage, c'est un besoin d'eau chaude, c'est un besoin d'éclairement. Alors maintenant, bien sûr, il y a toute la partie électricité qui est venue s'ajouter depuis un siècle, mais on va pas avoir des fonctionnalités complètement délirantes et complètement différentes.
Alors qu'est-ce qui va changer?
Et malgré cette stabilité, tout va changer. Tout va changer. C'est-à-dire que cette maison aujourd'hui, elle vit mal avec son environnement, elle vit sur une relation à l'énergie qui, pendant le XXe siècle, a été avec un coût sans cesse en réduction d'énergie. Donc ce qui nous intéressait, c'était avoir le plus d'espace possible dans la maison, avoir davantage de pièces, et puis la question énergétique n'intervenait pas. Et cette affaire-là va s'inverser. La grande règle de ce siècle, ça va être d'optimiser l'utilisation des ressources. Et ce qui va se jouer dans nos vies, c'est est-ce que cette confrontation à l'énergie, cette confrontation au changement climatique va nous emmener dans une régression sur nos vies personnelles, parce que l'énergie sera chère, parce que l'émission de polluants et de gaz à effet de serre sera un problème. Et moi, je pense profondément qu'on va résoudre cette question-là, et qu'on va la résoudre dans ce siècle en continuant les immenses progrès qu'on a réalisés depuis 30 ans. Une maison neuve qu'on construit aujourd'hui consomme un tiers d'énergie pour son chauffage et son eau chaude que la même maison avec le même confort construite il y a 30 ans. Et donc, la maison que vous allez construire maintenant, on est en crise pétrolière, donc on se réveille un petit peu sur ces questions-là, la maison qu'on va construire maintenant va être une maison bien isolée, avec un bon vitrage. Les vitrages qu'on fait aujourd'hui sont mieux isolés que les murs d'antan. Donc on va avoir donc une bonne qualité de cette enveloppe douillette dans laquelle on va vivre. Et puis on va avoir des systèmes de chauffage qui vont devenir intelligents. Tu pourras d'ici quelques temps téléphoner à ta chaudière pour dire je rentre tard ce soir, est-ce que tu peux pas avoir la délicatesse de monter la température du logement plus tard que prévu, parce que on va faire ce réglage,
dialoguer avec ces machines.
Voilà. Voilà. Et puis au fur et à mesure qu'on va aller dans ce siècle, on va sortir des maisons du futur qu'on commence aujourd'hui à comprendre. On sait ce que sera la maison de 2030.
En 2030, 20 ans, allez. Donc ça veut dire que j'ai 40 ans.
Alors c'est une maison qu'on va dire à énergie positive. C'est-à-dire une maison dans laquelle on aura tellement bien choisi les matériaux. Le dessin de la maison fait qu'elle saura puiser l'énergie de son environnement et notamment le rayonnement du soleil pour son chauffage et pour son eau chaude. Cette maison, elle pourra donc tirer de son environnement plus d'énergie que la petite famille qui habite dans cette maison n'en consommera. C'est-à-dire qu'on va avoir dans ce siècle, c'est à échéance d'une génération, une maison dans laquelle les besoins de chauffage, les besoins d'eau chaude, d'éclairement, et puis tous les appareils électriques qu'on a aujourd'hui et qu'on peut rêver avoir dans le futur pour la cuisine, pour les loisirs. Oui, non, mais aussi les loisirs, l'électronique. Et on voit bien que du côté de l'électronique, plein de choses nouvelles vont venir dans nos maisons. Eh bien, les quantités d'énergie que ça représente vont être inférieures avec la quantité d'énergie que cette maison est capable de tirer de son environnement. Et comment elle va tirer cette énergie de son environnement ? Eh ben, elle sait tirer de l'énergie de la chaleur de la Terre. C'est-à-dire qu'on sait, par une pompe à chaleur, puiser l'énergie, la chaleur qui est dans la Terre et faire du chauffage dans les logements. Tous les murs de cette maison et toutes les surfaces exposées au soleil sauront capter l'énergie solaire. Et donc, elle va utiliser ça pour faire de l'électricité. Bien sûr, on saura lui mettre des capteurs solaires de façon assez classique pour faire de l'eau chaude et faire du chauffage. Et quand on est aujourd'hui sur des prototypes de ce type, encore une fois, on sait plus tirer d'énergie de l'environnement que ne représentent les besoins de la famille à partir du moment où on est économe en énergie. Et donc là, on a une piste devant nous qui est celle d'une vie satisfaisante pour ici, dans les pays industrialisés, mais aussi derrière pour l'ensemble des pays en développement avec des conditions climatiques différentes, bien évidemment, à chaque fois. On sait avoir en tête une vision d'une vie personnelle satisfaisante qui ne consomme pas de combustible fossile, qui n'émet pas de polluants dans l'environnement et qui n'émet pas donc de gaz à effet de serre et qui ne contribue pas à son chauffage.
Et donc le marché fera que ça coûtera beaucoup moins cher donc dans 15 ans.
Les techniques peuvent coûter plus cher qu'aujourd'hui, mais les quantités d'énergie vont diminuer. Et comme le coût de l'énergie va croissant, on est sur un compromis qui reste tout à fait acceptable. Aujourd'hui, les maisons que l'on fait, qui consomment trois fois moins d'énergie qu'en 1970, le surcoût de construction de la maison est de l'ordre de 5-10%. Donc on n'est pas sur des surcoûts de construction considérables. Donc on va avoir, à partir de ça, encore une fois, un scénario satisfaisant, mais il va passer, bien sûr, par une très grande attention à l'architecture et à l'urbanisme, une très grande attention à nos choix d'achat individuels, et puis bien sûr une très grande attention à nos comportements. C'est-à-dire que la technique, pour ce qui concerne la maison, nous donne d'ores et déjà des pistes, des solutions tout à fait satisfaisantes.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille.
Erdan, est-ce que en matière de rénovation, on va pouvoir effectivement être, je dirais, aussi optimiste d'ici une vingtaine d'années? Parce que la rénovation, c'est quand même le gros du parc. Et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avec ça?
Alors, bien sûr, la construction neuve, c'est le plus facile. L'ancien, c'est plus difficile. Alors, dans l'ancien, on a toutes les qualités. On a de la bonne qualité, on a de la mauvaise qualité. Il y a du facile à réhabiliter, il y a du difficile à réhabiliter. Très probablement que dans le demi-siècle qui est devant nous, on sera probablement obligé d'abandonner une partie du parc de construction qui ne passera pas par rapport aux exigences de ce siècle et notamment à la question de l'énergie et à la question du climat. Et puis on a une grosse partie du parc qu'on arrivera à réhabiliter. Je prends par exemple le parc de Paris, qui est quand même en grande partie de bonne qualité de construction. On va pouvoir le transformer profondément pour l'améliorer. Bien évidemment...
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre une nouvelle peau à l'extérieur, d'autres isolations à l'intérieur?
Prioritairement, oui, il faut isoler par l'extérieur. À la fois parce que je dirais c'est de meilleure qualité d'isolation, mais ça a aussi une fonction qui va devenir de plus en plus importante dans ce siècle, c'est que c'est meilleur l'été. C'est-à-dire que quand vous avez une maison qui est isolée par l'intérieur, une canicule survient, elle chauffe, le rayonnement du soleil chauffe les murs de la maison, rien ne l'empêche, fait obstacle à ce que cette chaleur pénètre dans les murs de la maison. Et si vous avez un isolant à l'intérieur de la maison, quand les murs sont chauds, la chaleur finit toujours un moment par se diffuser. Et donc l'isolation par l'intérieur ne sert à rien en période de canicule. Par contre, si vous avez une isolation par l'extérieur, cette isolation protège la maison de la surchauffe diurne. Et puis l'été, la nuit, quand ça se rafraîchit un petit peu, eh bien la maison bénéficie de son inertie. Et à ce moment-là, donc l'isolation par l'extérieur est beaucoup plus conforme pour résister à la canicule. Donc on va devoir adapter nos logements anciens, nos patrimoines anciens. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça va être un énorme chantier du bâtiment, que ça va être un énorme gisement d'emplois dans ce siècle, et qu'il va falloir faire ça, je dirais, graduellement. Et comme le patrimoine bâti français est quand même important, il ne faut pas traîner à 6 mètres, et notamment sur les logements, je dirais, les moins bien isolés.
Vous avez remarqué qu'en période de canicule, les chers bâtisseurs donc du Moyen-Âge ont construit des choses remarquables qu'on appelle les cathédrales. Il fait toujours frais à l'intérieur. Donc voilà, ils avaient déjà le secret de l'isolation.
Oui. Par contre, l'hiver, quand il faut essayer de chauffer la cathédrale, la hauteur sous plafond est quand même assez dissuasive, quand même.
À bientôt, Pierre Radal, et puis merci beaucoup.
Merci.
Viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scotaire, un atomiseur et du dans l'opilon. Une cuisinière avec un four en verre, des tables couvertes, et nous serons heureux.
Voilà, et puis donc je vous recommande vraiment cette exposition qui se trouve au parc de Bagatelle à Paris, donc énergie, énergie mode d'emploi, et puis Pierre Adane a écrit donc un ouvrage qui s'appelle Énergie de ton siècle. On le retrouvera régulièrement sur ces différents thèmes qui nous concernent tous. Merci à Sandrine Laurent, à Philippe Duclos à la technique aujourd'hui, à Jean-Baptiste Audibert, notre assistant, Jean-Christophe Pinaza aussi pour son aide, et Xavier Pestugia qui réalisait cette émission. Émission que l'on peut alors réécouter pendant 4 semaines, que l'on peut enregistrer, podcaster. Si on vous a offert à Noël, vous savez, ce petit MP3, c'est formidable, et ben, vous pouvez l'enregistrer pendant une semaine. Il y a des liens sur le site qui a été donc alimenté par Anne Gouzon. Et puis la semaine prochaine, une information quand même, vous retrouverez aussi Jean-Marie Pelt le 21 et 22 septembre aux entretiens de Millancey. Ça, c'est dans le Loir-et-Cher et c'est l'avenir du monde rural. Donc on en parle aussi, les entretiens de Millancey, c'est dans le Loir-et-Cher, 21 et 22 septembre. On vous a mis le site aussi sur le site de CO2 Mon Amour. Et la semaine prochaine, alors là, émission intéressante sur le climat, donc sur le réchauffement, avec les idées reçues, les idées fausses, donc tout sur le climat. Ça va être un dossier bien complet la semaine prochaine dans CO2 Mon Amour. Denis Chessot, je vous souhaite un excellent week-end. Vous l'avez compris, il est 15h et dans quelques instants, c'est Mathias Degueil que l'on va retrouver avec Zapping et avec Jean-Michel Ribes.